Chapitre 3. Je sors par la porte de derrière et me trouve dans le jardin qui est vaste et bien entretenu. Une pelouse au milieu, un saule pleurant des chatons, tout autour des plates-bandes de fleurs où les jonquilles maintenant se fanent et où les tulipes ouvrent leurs calices et répandent de la couleur. Les tulipes sont rouges, d'un cramoisi plus foncé vers la tige, comme si on les avait coupées là et qu'elles commençaient à se cicatriser. Le jardin est le domaine de l'épouse du commandant. En regardant par ma fenêtre aux vitres incassables, je l'y ai souvent vue, les genoux sur un coussin, un voile bleu pâle jeté sur son chapeau de jardinier à large bord, un panier à ses côtés, garni de sécateurs et de bouts de ficelle pour attacher les fleurs en place. Un gardien affecté au service du commandant assure le gros bêchage. L'épouse du commandant dirige les opérations en pointant avec sa canne. Beaucoup d'épouses ont des jardins. Cela leur donne quelque chose à organiser, entretenir et soigner. J'ai eu un jardin autrefois. Je me rappelle l'odeur de la terre retournée, les formes rebondies des bulbes tenus dans les mains, plénitude, le bruissement sec des graines filant entre les doigts. Le temps pouvait passer plus vite ainsi. Parfois, l'épouse du commandant fait apporter un fauteuil et reste juste assise, dans son jardin. De loin, cela ressemble à la paix. Elle n'est pas là maintenant, et je commence à me demander où elle est. Je n'aime pas tomber sur l'épouse du commandant à l'improviste. Peut-être coud-elle, dans le salon, le pied gauche sur un tabouret à cause de son arthrite. Ou bien elle tricote, pour les anges qui sont au front. J'ai peine à croire que les anges aient besoin de ces écharpes. De toute façon, celles que fabrique l'épouse du commandant sont trop surchargées. Elle dédaigne le motif croix et étoile qu'utilisent beaucoup les autres épouses. Ce n'est pas excitant. Des sapins défilent le long des bouts de ses écharpes, ou des aigles, ou des personnages humanoïdes guindés. Un garçon, une fille, un garçon, une fille. Ce ne sont pas des écharpes pour des hommes adultes, mais pour des enfants. Parfois, je pense que ces écharpes ne sont pas du tout expédiées aux anges, mais détricotées et reconstituées en écheveaux, qui seront retricotées à leur tour. Peut-être est-ce juste une activité destinée à occuper les épouses, à leur donner le sentiment d'être utile. Mais j'envie son tricot à l'épouse du commandant. C'est bon d'avoir des objectifs modestes qui peuvent facilement être atteints. Pourquoi m'envie-t-elle ? Elle ne m'adresse pas la parole. Sauf si elle ne peut l'éviter. Je suis pour elle un reproche et une nécessité. Nous étions face à face pour la première fois il y a 5 semaines, lorsque j'ai rejoint ma présente affectation. Le gardien de mon poste précédent m'a amené jusqu'à la porte principale. Le premier jour, nous sommes autorisés à passer par la porte principale. Mais ensuite, nous devons utiliser celle de derrière. Les choses ne sont pas encore fixées, c'est trop tôt. Personne n'est au clair quant à notre statut exact. Par la suite, ce sera soit toujours la porte principale, soit toujours la porte de service. Tante Lydia disait qu'elle faisait campagne pour la porte principale. « C'est une situation honorifique que la vôtre, » disait-elle. Le gardien a tiré la sonnette pour moi. Mais avant que ne s'écoule le temps nécessaire pour que quelqu'un l'entende et vienne rapidement répondre, la porte s'est ouverte de l'intérieur. Elle devait être à guetter derrière. Je m'attendais à voir une Martha, mais c'était elle, dans sa longue robe bleu pâle, sans méprise possible. « Alors vous êtes la nouvelle » a-t-elle dit. Elle ne s'est pas écartée pour me laisser entrer. Elle est restée plantée là, dans l'encadrement de la porte, à me bloquer le passage. Elle voulait me faire sentir que je ne pouvais pas pénétrer dans la maison sans qu'elle ne m'y invite. On se bouscule de nos jours pour garder pareille prise de pied. J'ai répondu « Oui ». « Laissez cela sur la terrasse. »« Ceci », au gardien qui portait ma valise. La valise était en vinyle rouge et guère volumineuse. Il y avait un autre sac contenant la cape d'hiver et les robes plus chaudes. Mais il devait arriver plus tard. Le gardien a déposé la valise et l'a saluée. Puis j'ai entendu ses pas derrière moi s'éloigner sur le chemin et le déclic de la grille principale, et j'ai eu l'impression qu'un bras protecteur se retirait. Le seuil d'une nouvelle maison est un lieu solitaire. Elle a attendu que la voiture démarre et parte. Je ne regardais pas son visage, mais la portion de sa personne que je pouvais voir en gardant la tête baissée. La taille bleue épaissie, sa main gauche sur le pommeau d'ivoire de sa canne, les gros diamants à l'annulaire qui avaient dû un jour être jolis et étaient encore joliment soignés, l'ongle au bout du doigt noueux et élégamment limé en une pointe arrondie. C'était comme un sourire ironique à ce doigt, comme quelque chose qui se moquait d'elle. Elle a dit « Vous feriez aussi bien d'entrer ?» Elle m'a tourné le dos et a claudiqué le long du vestibule. « Fermez la porte derrière vous !» J'ai traîné la valise rouge à l'intérieur, comme elle le souhaitait sans doute. Puis j'ai fermé la porte. Tante Lydia disait qu'il valait mieux ne pas parler à moins qu'elle ne vous pose une question directe. « Essayez de voir les choses de leur point de vue, » disait-elle, les mains jointes et étroitement serrées, avec son sourire nerveux implorant. Ce n'est pas facile pour elle. « Venez par ici, » a dit l'épouse du commandant. Quand je suis entrée dans le salon, elle était dans son fauteuil, le pied gauche sur le tabouret avec son coussin au petit point, des roses dans un panier. Son tricot était par terre à côté du fauteuil, les aiguilles fichées dedans. Je suis restée debout devant elle, mains jointes. Elle a dit « Alors ?» Elle tenait une cigarette, l'a placée entre ses lèvres et l'y a tenue serrée tandis qu'elle l'allumait. Elle avait les lèvres minces ainsi, avec autour des petites rides verticales que l'on voyait jadis sur les publicités vantant des cosmétiques pour les lèvres. Le briquet était couleur d'ivoire. Les cigarettes provenaient probablement du marché noir, ai-je pensé, et cela m'a donné de l'espoir. Même aujourd'hui qu'il n'y a plus de vrai argent, il y a encore un marché noir. Il y a toujours un marché noir. Il y a toujours quelque chose qui peut s'échanger. C'était donc une femme capable de forcer les règles. Mais que possédais-je, moi, à échanger? Je regardais la cigarette avec envie. Pour moi, de même que l'alcool et le café, les cigarettes sont interdites. Elle a dit « Alors le vieux machin chose n'a pas fait l'affaire ?»« Non, madame. » Elle a émis ce qui pouvait passer pour un rire, puis a toussé. Pas de chance pour lui. C'est votre deuxième, n'est-ce pas?
Troisième, madame.
Pas très bon pour vous non plus, a-t-elle observé. Il y eut un autre rire tout sauté. Vous pouvez vous asseoir. Je n'en fais pas une habitude, mais juste pour une fois. Je me suis assise au bord de l'une des chaises à dossier raide. Je ne voulais pas explorer la pièce des yeux, je ne voulais pas paraître inattentive à son égard, si bien que le manteau de cheminée en marbre, le miroir qui le surmontait et les bouquets de fleurs n'étaient que des silhouettes aux marges de mon regard. Plus tard, je n'aurai que trop de temps pour les assimiler. Maintenant, son visage était au même niveau que le mien. Il me semblait le reconnaître, ou du moins il y avait chez elle quelque chose de familier. Quelques cheveux dépassaient de son voile. Ils étaient encore blonds. Je me suis dit alors qu'elle les décolorait peut-être, qu'elle pouvait aussi se procurer de la teinture au marché noir. Mais je sais maintenant qu'ils sont réellement blonds. Elle avait les sourcils épilés jusqu'à ne laisser que de minces traits arqués, ce qui lui donnait en permanence l'air surpris, ou indigné, ou inquisiteur. Comme celui qu'aurait un enfant effarouché. Mais en dessous, ses paupières paraissaient fatiguées. En revanche, pas ses yeux, qui étaient du bleu uniforme et hostile d'un ciel de plein été sous un soleil brillant, un bleu qui vous exclut. Son nez avait dû être un jour ce que l'on qualifiait alors de mignon. Mais il était maintenant trop petit pour son visage. Son visage n'était pas gros, mais grand. Deux rides descendaient des coins de sa bouche. Entre elles, le menton. Crispée comme un poing. Elle a dit « Je souhaite vous voir aussi peu que possible. Je suppose que vous êtes dans les mêmes dispositions à mon égard. Je n'ai pas répondu car un oui aurait été une insolence. Un non, une contradiction. Elle a poursuivi « Je sais que vous n'êtes pas idiote. » Elle a inhalé, soufflé la fumée. En ce qui me concerne, ceci n'est qu'une simple transaction commerciale. Mais quand on me crée des ennuis, j'en crée en retour. C'est bien compris ? Oui, madame. Ne m'appelez pas madame, a-t-elle dit avec agacement. Vous n'êtes pas une Martha. Je ne lui ai pas demandé comment j'étais censée l'appeler, parce que je voyais qu'elle espérait que je n'aurais jamais l'occasion de l'appeler, de quelque nom que ce fût. J'étais déçue. J'avais envie alors d'en faire une aînée, un personnage maternel, quelqu'un qui me comprenne et me protège. L'épouse de mon affectation précédente passait le plus clair de son temps dans sa chambre à coucher. Les Martha disaient qu'elle buvait. Je souhaitais que celle-ci fût différente. Je voulais croire que je l'aurais aimée, en un autre temps, un autre lieu, une autre vie. Mais je voyais déjà que je ne l'aurais pas aimée, et réciproquement. Elle a éteint sa cigarette à demi consumée dans un petit cendrier orné d'arabesques, placé sur le guéridon à côté d'elle. Elle le fit d'un geste décidé, d'un coup sec, puis l'écrasa, et non pas d'une série de tapotements délicats comme préféraient le faire beaucoup d'épouses. « Quant à mon mari, a-t-elle ajouté, c'est mon mari. Un point, c'est tout. Mon mari. Je veux que cela soit parfaitement clair. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y a rien à ajouter. Oui, madame, ai-je fait encore, étourdiment. Il y avait dans le temps des poupées pour les petites filles qui parlaient si l'on tirait un cordon fixé à leur dos. Je me disais que ma voix avait le même son, monocorde, voix de poupée. Elle avait probablement envie de me gifler. Elles peuvent nous frapper, il y a des précédents dans les écritures. Mais pas avec un objet, uniquement avec la main. Cela fait partie des choses pour lesquelles nous nous sommes battus, dit l'épouse du commandant. Et tout à coup, elle ne me regardait plus. Elle baissait les yeux sur ses mains noueuses cloutées de diamants, et je sus où je l'avais vue auparavant. La première fois, c'était à la télévision, quand j'avais 8 ou 9 ans. C'était quand ma mère faisait la grasse matinée le dimanche. Je me levais tôt pour aller regarder la télévision dans son bureau, et je passais d'une chaîne à l'autre à la recherche de dessins animés. Parfois, quand je n'en trouvais pas, je regardais l'émission « L'Évangile pour la formation des jeunes âmes », où l'on racontait des histoires bibliques adaptées aux enfants et où l'on chantait les hymnes. L'une des femmes s'appelait Serena Joy. C'était la première soprano. Elle était blond cendré, menue, avec un nez retroussé et d'immenses yeux bleus qu'elle levait au ciel pendant les hymnes. Elle pouvait sourire et pleurer en même temps, laissant une ou deux larmes lui glisser gracieusement le long des joues, comme pour annoncer son entrée, tandis que sa voix montait avec aisance, frémissante, jusqu'aux notes les plus aiguës. C'est plus tard qu'elle s'était adonnée à d'autres activités. La femme assise en face de moi était Serena Joy, ou l'avait été jadis. C'était donc pire que je ne le pensais.